Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 25 mars 2024. Au Sénégal, l'opposant Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle au premier tour. Le candidat du parti au pouvoir a concédé sa défaite et le président sortant Macky Sall a félicité le vainqueur.
La présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères.
Des réactions, des analyses sur la victoire du candidat anti-système dans un instant. Au Cameroun, début ce lundi du procès sur l'assassinat du journaliste Martinez Zego après une instruction qui a duré un peu plus d'un an. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Attentat de Moscou, le Kremlin refuse de commenter la revendication de l'État islamique. Ne manquez pas notre page fort. Pour l'instant, le journal. Direction le Sénégal, le président Macky Sall et le candidat du pouvoir, Amadou Ba, félicite Bassirou Diomaye Faye. Le porte-étendard de la coalition Beno Bok Yakar a tenu un point de presse ce lundi pour reconnaître sa défaite. La coalition qui était au pouvoir ces 12 dernières années se prépare désormais à basculer dans l'opposition. Le reportage à Dakar de Wani Johnson Sambou.
Avant le point de presse, les partisans d'Amadou Ba évoquaient encore l'idée d'un second tour. Et puis soudain, le calme. Les informations annoncent l'appel du candidat du pouvoir à son adversaire Bassirou Diomaye Faye. Un acte confirmé par l'ex-premier ministre lors de son point de presse, plein d'émotion. Amadou Ba.
La présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères. Par ce comportement, le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye.
Entre déception et frustration, les partisans saluent la grandeur de leur leader. Mais l'issue de la présidentielle reste une surprise pour cette dame.
Moi, je m'attendais plus à avoir une victoire au premier tour, parce qu'on sait que vous l'avez vu sur le terrain, il est parti n'importe où, partout il est rentré, et de même aussi au niveau de Dakar où nous sommes restés, on a fait les visites à domicile. Moi, j'attendais le premier tour pour le président Amadou Ba.
Alors que les partisans de Bassirou Diomaye Faye continuent de célébrer leur victoire, ceux de l'ex-coalition au pouvoir se préparent désormais à endosser le costume d'opposant.
Voilà, à partir d'aujourd'hui, il faut nous voir comme des opposants. Mais tout compte fait, il ne faut pas que les Sénégalais attaquent le nouveau président de la République. Il faut lui donner au moins le temps.
En attendant, les Sénégalais se disent soulagés qu'ils puissent enfin passer à autre chose après plus de 3 ans de crise. Les résultats provisoires de la présidentielle de dimanche seront connus d'ici vendredi à minuit au plus tard. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
Le président sénégalais sortant, Macky Sall, a félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire sur la plateforme X. Monsieur Sall, qui ne se représentait pas après avoir été élu et réélu en 2012 et 2019, salue le bon déroulement de l'élection et félicite le vainqueur. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise, a-t-il fait valoir. Pour une réaction sur la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, Abdourahman Dia, adjoint à Dakar, Seydi Gassama, membre de la société civile, et président de la section sénégalaise d'Amnesty International.
Je crois qu'il y avait une réelle volonté des Sénégalais d'abord de faire le changement, mais surtout de faire en sorte que le passage du pouvoir entre les deux présidents puisse se faire dans l'ordre. Parce que comme vous le savez, le mandat du président Macky Sall, son mandat actuel, prend fin le 2 avril. Et en cas de deuxième tour, le président, qui a réaffirmé plusieurs fois qu'il ne resterait pas au-delà de cette date, allait passer le témoin au président de l'Assemblée nationale pour organiser ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Je crois que les Sénégalais ont voulu vraiment non seulement remettre le procès électoral sur les rails, mais faire en sorte qu'une passation de pouvoir conforme à la Constitution et éviter qu'on se trouve dans une situation de crise où vraiment on a un président intérimaire qui organise le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc il y a une mobilisation très forte des citoyens surtout des jeunes, mais aussi de la diaspora dont l'influence sur le vote au niveau national est extrêmement importante pour que, évidemment, cette situation anormale allait arriver ne puisse pas finalement survenir.
Après des années de crise, c'est finalement par les urnes que tout ceci a été réglé. Quelles leçons en tirer?
Je crois que ce sont les hommes politiques d'avoir tiré une leçon. En 2012, il y avait également une crise autour du troisième mandat qui a fait une dizaine de morts avec beaucoup de destruction de biens matériels. Le président Blanat a malgré tout insisté et s'est présenté, mais par le bulletin de vote, les Sénégalais ont mis fin à son régime. Cela aurait dû servir de leçon à Macky Sall. Malheureusement, il n'a pas tiré les leçons. Et il s'est également lancé dans des errements, d'abord avec son troisième mandat, mais ensuite avec le déraillement du processus électoral. Et tout cela également a pris fin grâce à la détermination des Sénégalais à aller voter tranquillement et justement à sauvegarder leur démocratie.
C'est Idi Gassama, membre de la société civile au Sénégal. Dans le reste de l'actualité africaine, au Soudan du Sud, des partis d'opposition ont dénoncé aujourd'hui des frais exorbitants de $50,000 exigés pour être enregistrés avant les premières élections prévues d'ici la fin de l'année. Nous pensons que ces frais exorbitants n'ont aucun fondement et sont en contradiction directe avec le principe de la démocratie et de participation politique équitable, a déclaré Gay Scholl-Paul, le président du Forum du Peuple Uni, lors d'un rassemblement organisé devant le Conseil des partis politiques à Juba, la capitale sud-soudanaise. Des dizaines de membres de 14 partis politiques d'opposition également participaient à cette manifestation avant de remettre leurs doléances au président des partis politiques pour demander des frais équitables. Au Cameroun, ouverture du procès sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. 17 personnes inculpées dans cette affaire sont jugées à partir de ce lundi à Yaoundé après un peu plus d'un an d'instruction. Davantage avec Alexandrine Olognon.
Le procès très attendu s'est ouvert au tribunal militaire de Yaoundé. 17 personnes, dont un puissant homme d'affaires et l'ex-patron des services secrets, sont jugées pour leur implication présumée dans le meurtre de journalistes. Enlevé le 17 janvier 2023 devant un poste de gendarmerie dans la banlieue de la capitale Yaoundé, Arsène Salomon Mbani Zogo, dit Martinez, 50 ans, avait été retrouvé mort 5 jours plus tard. Son corps nu était atrocement mutilé. L'influent homme d'affaires camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga, réputé proche de plusieurs ministres et hauts responsables de l'État, avait été arrêté peu après le meurtre à Yaoundé, soupçonné d'être impliqué. L'assassinat a provoqué un immense choc au Cameroun, contraignant le pouvoir à accepter de mettre sous les verrous des personnalités auparavant intouchables. Plus d'un an après le meurtre de journalistes, sa dépouille n'a toujours pas été rendue à la famille dans l'éventualité de nouvelles autopsies.
Au Nigeria, les 137 élèves ayant été enlevés début mars dans le nord-ouest du pays par des bandes armées et dont la libération a été annoncée dimanche ont été accueillis ce lundi par les autorités locales avant de rejoindre leur famille. Aucun membre des familles des enfants n'était présent à la conférence de presse organisée par les autorités locales et militaires à Kaduna qui n'ont pas souhaité donner de détails sur les conditions de détention des enfants ni sur leur retour dans leur famille, se contentant de signaler que les retrouvailles auraient lieu bientôt. Le Nigeria, qui connaît sa pire crise économique depuis 30 ans, fait face à une recrudescence des kidnappings contre rançon. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 11 personnes ont été tuées samedi dans une double attaque attribuée aux rebelles ADF autour de la ville de Beni. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique qui reconnaît les ADF comme sa branche en Afrique centrale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après plus de 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté aujourd'hui sa première résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un appel bloqué plusieurs fois par les États-Unis qui se sont cette fois abstenus. La résolution adoptée par 14 voix pour et une abstention exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan, qui a déjà commencé il y a 2 semaines, devant mener à un cessez-le-feu durable, et exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Le Hamas a salué la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et a exprimé sa volonté d'engager un processus d'échange prisonniers-otages immédiatement. Le ministre israélien de la Défense a fait savoir qu'Israël ne mettra pas fin à sa guerre à Gaza tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. Le Kremlin refuse de commenter la revendication du groupe djihadiste État islamique de l'attentat de près de Moscou qui a fait 137 morts, alors que les recherches dans les décombres continuent. Jacques Aristide.
3 jours après le drame, de nombreuses questions demeurent en suspens, notamment sur l'identité et les motivations des 4 suspects. L'enquête est en cours et l'administration présidentielle aurait tort de faire des commentaires sur le déroulement de l'enquête. A simplement dit aujourd'hui Dimitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine. D'après Moscou, les tueurs présumés ont tenté de rejoindre le territoire ukrainien après l'attaque du Crocus City Hall. Kiev a vigoureusement démenti tout lien avec l'incident. Les États-Unis ont également rejeté la version du président russe. Ce lundi, la télévision d'État ne faisait pas mention du groupe État islamique ni de l'Ukraine, mais précisait que les cours d'éducation patriotique dans les écoles du pays portaient aujourd'hui sur le terrorisme. Dimitri Peskov n'a pas non plus voulu commenter les allégations de torture des suspects qui encourent la prison à perpétuité. Pour le porte-parole du Kremlin, la lutte contre le terrorisme nécessite une coopération internationale totale, mais selon lui, cette coopération n'existe pas du tout.
Et 10 personnes ont été tuées, ont été blessées du moins ce lundi par des débris de missiles russes abattus à Kiev. Une nouvelle preuve selon l'Ukraine de son besoin urgent de systèmes de défense aérienne fournis par les Occidentaux. Et puis la Cour d'appel de l'État de New York a donné aujourd'hui à Donald Trump une nouvelle bouffée d'air, ramenant à 175 millions de dollars la somme qu'il doit payer à la suite de sa condamnation au civil pour fraude financière. La Cour a donné 10 jours à l'ex-président, condamné à 4 millions de dollars d'amende avec ses fils, Eric et Don Jr., pour fraude financière au sein de leur empire immobilier, Trump Organization, pour rassembler cette somme. Par ailleurs, l'autre procès pénal de Donald Trump dans l'affaire de paiement dissimulé à une actrice de film adulte commencera le 15 avril, a annoncé aujourd'hui le juge, rejetant la demande de la défense de lui accorder un nouveau délai. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Jean Rouget et bonsoir à tous.
Du football principalement au menu ce soir, les matchs amicaux internationaux se poursuivent ce lundi.
Oui, et quelques résultats déjà enregistrés, notamment la victoire 2-0 du Rwanda qui était face à Madagascar, succès également, mais 3-0 en faveur de la Tanzanie opposée à la Mongolie, et nul blanc 0-0 entre le Burundi et le Botswana. Et parmi les autres matchs programmés ce lundi, on aura Cap-Vert, Guinée-Équatoriale, Gabon-Congo, puis Guinée-Bermude.
Suite et fin des matchs demain avec un certain Côte d'Ivoire-Uruguay.
Une rencontre que ne jouera pas Mas Alain Gradel, l'attaquant, double champion d'Afrique en 2015 et 2024, a pris sa retraite internationale après le match contre le Bénin. En 112 sélections, l'ex-capitaine des éléphants se réjouit d'avoir tout apporté à son pays.
Honnêtement, je me suis préparé 2 ans avant la CAN et je m'étais fixé comme objectif cette CAN à domicile. C'était le dernier gros challenge qui me restait. Et pour moi, de toute façon, la décision a été prise bien avant. Mais je savais ce que j'avais à faire, je savais ce que j'allais faire. Et j'attendais juste le moment opportun pour prendre les décisions. J'ai joué mon premier match en sélection contre le Bénin. Aujourd'hui, je joue mon dernier match contre le Bénin. C'est le destin. C'est la vie qui veut ça. Parce qu'il faut rappeler qu'on était censé jouer l'Argentine. Ouvrir le chapitre avec le Bénin, la fermer avec le Bénin, c'est le destin. Surtout marqué pour mon dernier match en équipe nationale. Je suis très très content, je ne pouvais pas rêver de mieux que ça. J'aurais préféré avec la victoire, mais bon, dans la vie on ne peut pas tout avoir.
Il faut préciser que Gradel restera avec Serge Aurier les seuls Ivoiriens à avoir soulevé 2 Coupes d'Afrique après avoir disputé la finale perdue en 2012 face à la Zambie.
Toujours demain, le Sénégal affrontera le Bénin sans certains de ses joueurs cadres.
Oui, quatre pour être précis. Il s'agit d'Abdoulaye Niakate Ndiaye, Ismaïl Assa, Pape Gueye et Haruna Sangaté. Tous en accord avec leurs médecins respectifs, la fédération dans un communiqué a jugé de les laisser rentrer dans leur club pour continuer leurs soins. Le Sénégal, pour son premier match, avait battu le Gabon 3-0.
Page de sport VO Afrique signée Élisée Onpatine. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. On revient sur le Sénégal où l'élection présidentielle a eu lieu hier dimanche. Le prochain président aura la lourde tâche de redonner espoir aux pêcheurs qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme le bradage d'un secteur vital pour l'économie du pays, les Sénégalais étant de grands consommateurs de poissons. L'opposant Bassirou Diomaye Faye, vainqueur de cette présidentielle, était parmi les candidats qui ont placé la renégociation des accords de pêche avec l'Europe et la Chine au cœur de leur campagne présidentielle. Suivons ce reportage de Georges Attino à Dakar.
Plage de Wakam. Djaraf Samba et ses collègues pêcheurs discutent. Le sujet du jour, c'est l'élection présidentielle. Tous se plaignent de la raréfaction des poissons et pointent du doigt la responsabilité des chalutiers européens et chinois qui épuisent le stock de poissons, une ressource vitale pour les pêcheurs. Djaraf Samba.
En fait, il y a de moins en moins de poissons parce qu'il n'y a plus de gros bateaux. Ces bateaux viennent d'Europe pour pêcher dans nos eaux et ils prennent tous nos poissons. C'est pourquoi nous avions plus de poissons avant qu'aujourd'hui.
Une baisse des ressources confirmée par les chiffres du ministère sénégalais des pêches et de l'économie maritime. Le total des prises de poissons a chuté de 43% entre 2020 et 2022. Cette diminution contribue à l'augmentation des prix du kilogramme de poisson sur le marché. Une situation qui fait grincer les dents de Aïta Sen, vendeuse de poissons depuis plusieurs années.
Les prix ont considérablement grimpé. Le poisson est devenu à la fois cher et rare. Autrefois, on pouvait acheter 1 kilo à 1500 francs. Aujourd'hui, c'est entre 4500 et 5000 francs. Les bateaux étrangers ont ravagé nos eaux. Si nous arrêtons de faire affaire avec ces bateaux, la mer redeviendra normale.
Au Sénégal, plus de 600 000 personnes vivent de la pêche de manière directe ou indirecte. Un sujet qui occupe une place importante dans l'élection présidentielle. Les acteurs de la pêche se sont organisés pour soumettre une charte pour une pêche durable aux 19 candidats à la présidentielle. Le document propose en 13 points de geler l'octroi de nouvelles licences pour les ressources surexploitées. Mamadou Sarr est le porte-parole de la coalition pour une pêche durable. Il nous explique l'objectif de la charte.
Il y a moins de poissons. C'est ce qui a poussé à une génération, tu vois. Il y a l'immigration irrégulière. C'est les pêcheurs qui les convoient pour les amener dans ce sens-là. Mais s'il y avait du poisson, ils ont du travail, ils n'ont pas besoin d'aller autre part. On a élaboré cette charte pour vraiment gérer la ressource au niveau du Sénégal. Nos gouvernants, bon, à chaque fois, c'était des promesses non tenues. Mais cette fois-ci, avec la réflexion, on a vu qu'il était nécessaire d'écrire quelque chose.
Georges Attino, à Dakar, pour la VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En RDC, une intense vague de chaleur inhabituelle s'abat sur la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu et ses environs, rendant difficile toute activité en plein air pendant la journée. Les températures élevées persistent même la nuit. Cette chaleur accablante est un signe alarmant des effets du changement climatique, selon des chercheurs sur place. Davantage avec Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Le travail de Madame Ndole Katoto a été perturbé par la chaleur intense qui s'abat sur Goma au nord Kivu. Les températures élevées affectent son sommeil, affirme-t-elle, l'obligeant à abandonner sa couverture la nuit. Cette hausse des températures rend son travail difficile pendant la journée, surtout en l'absence d'eau potable.
Je transpire beaucoup, ce qui rend inutile de me laver avant de dormir. Je dois mettre la couverture de côté, sinon je ne peux pas dormir. Pendant la journée, la chaleur est intense et on ne sait pas quoi faire. Par exemple, hier je n'ai pas pu travailler au restaurant à cause du manque d'eau et aujourd'hui c'est la même chose. Je ne sais pas quoi faire à cause du manque d'eau. C'est pourquoi vous me voyez coincé sous cet arbre pour m'abriter du soleil avant de rentrer chez moi.
Selon des chercheurs Donné Masawasawa de l'Université de conservation et de développement de la nature, la déforestation est l'une des principales causes de ces réchauffements. Cette activité humaine a un impact direct sur le climat, entraînant une hausse des températures mondiales. Le réchauffement climatique, conséquence de la déforestation, nécessite de mesures urgentes pour protéger les forêts restantes et envisager les reboisements des zones déboisées.
Le réchauffement climatique, c'est une conséquence de la déforestation. Mais c'est mieux de voir comment on peut protéger les peu de forêts que nous avons encore, mais aussi voir dans la mesure du possible comment encore reforester les endroits qui sont reforestables pour qu'on puisse peut-être dans quelques années avoir encore un couvert végétal forestier qui va essayer d'atténuer le réchauffement climatique.
L'environnementaliste Bienfait Kambale Simisi souligne l'importance d'une cohabitation harmonieuse entre l'homme et l'environnement. Il met en garde contre les conséquences néfastes de l'exploitation excessive des ressources naturelles et appelle à une prise de conscience collective pour préserver notre planète.
En tant qu'être humain face à l'environnement, nous devons voir comment cohabiter le plus avec l'environnement. Si nous sommes là pour ne pas bien cohabiter, collaborer bien sûr avec l'environnement, alors nous serons en train de perdre tout ce que nous avons ici sur la Terre. Parce que l'homme a quelque chose qu'il apporte et il a quelque chose qu'il est en train de faire contre l'environnement ou sur l'environnement dans la recherche de la survie.
Dans la partie ouest de la ville de Goma, au nord Kivu, les personnes déplacées ont occupé plusieurs espaces verts. À leur arrivée, ils se sont attaqués aux arbres pour trouver des endroits où construire leurs huttes. Selon les experts environnementaux, cette déforestation pourrait avoir des conséquences encore plus graves pour l'environnement. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
La Zambie a reçu la première livraison d'un nouveau traitement destiné à prévenir l'infection par le VIH. Grâce à cette livraison, le pays devient le deuxième au monde après les États-Unis à proposer ce médicament injectable en dehors du cadre de la recherche. Le reportage de Cathy Short à Lusaka est relaté par Thierry Kaori.
Pendant 2 ans, Precious Mbomboli a pris des pilules tous les jours pour éviter d'être infecté par le VIH, le virus qui est à l'origine du sida. Mais cette jeune femme de 21 ans est l'une des premières en Zambie à recevoir un nouveau traitement préventif injectable.
Je suis passée au nouveau médicament injectable le 25 février parce que la pilule m'était difficile à prendre car j'avais l'habitude d'oublier de la prendre. Parfois, je n'étais pas à la maison au moment de prendre les médicaments, alors l'injection me permet de me sentir mieux et d'avoir confiance en moi.
Le nouveau vaccin est connu sous le nom de cabotegravir à longue durée d'action. Chaque injection prévient l'infection pendant 6 mois. La Zambie est le premier pays à revenu faible ou intermédiaire à proposer ce traitement au public. Linda Mwango est directrice technique de l'organisation locale à but non lucratif CHEP Zambia.
Nos principaux groupes d'âge sont les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 16 à 24 ans et nous nous intéressons également à leurs partenaires sexuels.
Des représentants locaux appelés connecteurs comme Joy Tapale contribuent à la mise en œuvre du programme.
Le conseil est basé au sein de la communauté. Nous mobilisons la communauté, nous la sensibilisons, nous procédons à la sélection des filles qui sont éligibles à l'inscription.
Le gouvernement américain a offert près de 15 000 doses du vaccin cabotegravir, ce qui devrait protéger près de 2 000 Zambiens contre le VIH pendant 1 an, selon l'ambassade des États-Unis. Mais les experts disent que les personnes qui se font vacciner doivent quand même prendre des précautions.
Kebi Muzokotwan dirige le Conseil national zambien de lutte contre le sida.
Les gens se font injecter et pensent que c'est une solution miracle qui leur permet de sortir et de coucher à droite et à gauche. En réalité, le message est que ce n'est pas la raison pour laquelle ce vaccin a été mis sur le marché. Il faut savoir que ce médicament n'empêche pas les grossesses. Il ne prévient pas les autres infections sexuellement transmissibles.
Environ 1 400 000 Zambiens vivent avec le VIH, avec environ 33 000 nouvelles infections par an. Les experts pensent que le nouveau vaccin contribuera à faire baisser ces chiffres.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Le président américain Joe Biden a fait campagne sur son bilan en matière de santé ce week-end, alors que son rival politique Donald Trump a dû se concentrer sur le respect de son délai de dépôt d'une caution auprès d'un tribunal de l'État de New York après avoir perdu une affaire civile de fraude. Suivons cela dans ce reportage de Veronica Balderas Iglesias, repris par John Lydon.
Après avoir été reconnu coupable de fraude persistante dans ses pratiques commerciales, l'ancien président Donald Trump devait déposer ce lundi une caution de 454 millions de dollars auprès d'un tribunal de l'État de New York. Trump a annoncé vendredi via sa plateforme Truth Social qu'il disposait de l'argent et a répété les arguments déjà entendus à Palm Beach, en Floride, dans le cadre de l'affaire civile relative à la fraude.
Il s'agit d'un procès truqué par un juge et un procureur général véreux. Il voudrait me retirer l'argent pour que je ne puisse pas l'utiliser pour la campagne.
La question de savoir si le récit de la chasse aux sorcières pourrait aider Trump sur le plan politique a été posée à la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez dimanche lors de l'émission State of the Union de CNN.
Y a-t-il déjà eu un président républicain ou démocrate qui a été soumis à un tel niveau d'accusation criminelle, d'inculpation et d'enquête? Il ne s'agit pas de parti, il ne s'agit pas de politique, il s'agit de corruption et de criminalité.
Lors de l'émission Mythe de presse de la chaîne NBC, l'ancienne présidente du Comité national républicain, Rona McDaniel, a commenté les informations relatives à un nouveau comité de collecte de fonds entre le Parti républicain et la campagne de Trump et s'il est approprié pour Trump de demander aux donateurs de payer ses frais juridiques.
S'ils ont envie de soutenir ces frais de justice, ils ont tout à fait le droit de le faire. Et je pense qu'il est très ouvert sur le fait qu'il l'aide à payer ces frais de justice.
En course pour un second mandat à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a tenu un rassemblement virtuel samedi, accompagné de son prédécesseur démocrate Barack Obama et de Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants. Biden s'est concentré sur la question de l'accès à des soins de santé abordables.
Cette élection concerne deux visions différentes de l'Amérique. C'est aussi simple que cela. Ma vision, notre vision de l'avenir où les gens ont la liberté et la sécurité de bénéficier des soins de santé abordables, d'un faible coût des médicaments sur ordonnance et d'un peu plus d'espace pour respirer.
Biden a assuré les électeurs qu'il préserverait l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare, et a critiqué Trump pour avoir promis de le démanteler alors qu'environ 20 millions de personnes se sont inscrites à ce programme rien que cette année.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.